RCF.
Michel Rousselet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un très beau livre qui paraît aux éditions De Book et qui s'intitule « La belle histoire des maths ». Vous êtes vous-même retraité de l'enseignement secondaire. Vous avez enseigné les mathématiques pendant de très nombreuses années. Et vous êtes un passionné de l'histoire de cette discipline,
exact.
Ce qui finalement n'est pas banal. Comment, quand on est professeur de maths, qu'on enseigne à des collégiens, à des lycéens, finit-on par s'intéresser justement à l'histoire de ce qu'on est en train d'enseigner, à la manière dont la discipline a évolué à travers les siècles ?
Ben, d'abord, ça a commencé par un intérêt personnel. Quand j'étais lycéen, je savais que je ferais des sciences et probablement des mathématiques. Je m'intéressais déjà à l'histoire des maths. Ensuite, pourquoi est-ce que l'histoire des maths peut être intéressante pour des élèves ? D'abord parce que ça rend un cours vivant, ce qui n'est pas négligeable.
Et en particulier concernant les mathématiques, peut-être ?
Oui, en particulier concernant les mathématiques. Donc, le cours devient plus vivant. On peut créer des ponts interdisciplinaires avec les collègues d'histoire, avec les collègues de français, avec les collègues d'art plastique.
Ça donne peut-être un peu de chair à une discipline qui, pour beaucoup d'entre nous, peut paraître un peu aride et parfois hermétique.
Tout à fait. Et alors maintenant, sur le plan, si vous voulez, intérêt pour les élèves, il y a encore un autre facteur auquel on ne pense pas. Ça permet aux élèves de comprendre que quand ils ont du mal, ben c'est parce que les choses étaient vraiment difficiles. C'est qu'on n'a pas inventé les théorèmes en claquant les doigts. Ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Ils voient également que les mathématiques, c'est un travail qui a mobilisé, je dirais pas le monde entier, mais des tas de gens dans tout le monde.
Et à toutes les époques, on va le voir.
Et à toutes les époques.
Michel Rousselet, ce livre bénéficie de tas d'illustrations, de très très belles reproductions. Il y a des photos, il y a des reproductions d'œuvres d'art. Ça aussi, pour vous, c'est une manière de donner corps, de donner chair à une discipline qui peut paraître très abstraite.
Oui, tout à fait. C'est ce qui m'a séduit dans la proposition qui m'a été faite de rédiger ce livre. Parce que bon, des livres purement mathématiques, j'en ai écrit pas mal. D'histoire des maths, j'en ai écrit aussi avec des exercices, etc. Là, c'était nouveau, c'est qu'il y avait toute une partie iconographique extrêmement intéressante, puisque c'est pas facile de choisir des illustrations. Donc je voulais mettre mon grain de sel, alors on a travaillé en collaboration. Il a fallu chercher, vous voyez, c'est un travail intéressant.
Chercher et vous avez trouvé parce que, notamment pour la période que nous allons aborder immédiatement, c'est-à-dire l'Antiquité, vous avez trouvé des choses qui permettent de comprendre comment petit à petit l'homme a été amené à utiliser le calcul pour répondre à des besoins d'abord ou par jeu, par hobby, même si c'est un mot anachronique.
Je vous dirais les deux. Les deux parce que, bon, on met en avant d'abord une sorte de pression sociale qui ont fait que les mathématiques étaient nécessaires. Pas toujours pour l'agrément des gens, parce que c'était pour les impôts, c'était pour calculer des taxes. Une autre source également importante, c'est la nécessité d'élaborer un calendrier. Les calculs, si vous voulez, pour coordonner les durées de ce qu'on appelle les heures, la semaine, le mois, l'année, c'est pas évident parce que ce sont pas des multiples les uns des autres.
Les mathématiques, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont un berceau ?
Sous réserve. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les spécialistes, les historiens, j'entends, s'accordent pour dire que les mathématiques sont nées en Mésopotamie, principalement à Sumer, et ont accompagné la naissance des villes et surtout la naissance de l'agriculture.
Pour les raisons que vous venez d'expliquer,
voilà.
Par nécessité.
Par nécessité. Mais je reviens à votre question. Dès le départ, il y avait une certaine virtuosité parce qu'on formait des scribes. Et donc, il fallait qu'ils aillent, disons, à l'équivalent de nos écoles pour apprendre. Et donc, ils se lançaient des défis pour le plaisir.
Alors, quels sont les objets qu'on a retrouvés et qui, aujourd'hui, nous donnent une idée de la manière dont on comptait en Mésopotamie dans l'Antiquité ?
Ah ben on a trouvé par exemple ces fameuses boulettes d'argile que vous pouvez admirer, enfin, si on veut dire, au Louvre par exemple.
Ou dans votre livre.
Oui, dans mon bouquin. C'est comme ça que l'idée des chiffres est née. D'abord, imaginez un berger par exemple qui doit transporter d'une cité à une autre des chèvres ou des moutons. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Je ne dis pas que le propriétaire n'a pas confiance, mais il a eu l'idée de mettre des calculis, c'est un mot latin d'origine.
Qui veut dire cailloux.
Cailloux, ce sont les cailloux. Des cailloux différents qui représentent des nombres. Alors, en Mésopotamie, la base était 60. C'est-à-dire qu'on avait, on comptait de 60 en 60. Pourquoi ? C'est une question assez complexe à laquelle moi je ne pourrais pas répondre, je ne sais pas. Mais c'était comme ça, c'était la base 60. Alors, on mettait donc autant de cailloux qu'il le fallait pour dénombrer le troupeau à livrer. On enfermait ça dans une bulle d'argile qu'on laissait sécher. Et à l'arrivée, le berger tendait ça à l'acheteur qui cassait la bulle et qui pouvait vérifier que toutes les bêtes étaient là. Après, on a eu l'idée non plus de mettre des cailloux, mais avec un bout de roseau, de graver des signes particuliers. C'est comme ça qu'est née l'écriture des nombres. Et paradoxalement, l'écriture des nombres en Mésopotamie a précédé l'écriture proprement dite. On avait besoin surtout de dénombrer, de marquer. Après, il y a eu les comptes. Comme si vous
c'est le début de la facture, quoi.
Oui, il y avait des factures.
C'est voilà. Ça.
Et puis, il fallait gérer les stocks. Toutes choses qu'on connaît aujourd'hui. Hein.
Alors là, on parle de Mésopotamie, mais on sait que les Grecs ont joué un rôle énorme dans tout ce qui concerne les mathématiques et notamment avec les fameux théorèmes qui nous ont fait parfois arracher les cheveux au collège et au lycée.
Oui, vous pensez au théorème de Pythagore notamment. Et au théorème de Thalès. Alors premièrement, le théorème de Pythagore, probablement il n'a pas été démontré par Pythagore parce que les Égyptiens en connaissaient certaines formes. Le fameux triangle 3, 4, 5. Si vous prenez un triangle dont les côtés mesurent 3 unités, 4 unités, 5 unités de longueur, vous avez un triangle rectangle. On s'en servait, par exemple, pour construire des murs, c'est-à-dire pour avoir des verticales, un angle droit.
Et pour mesurer une superficie ?
Alors, pour calculer une aire, on avait mis au point des formules. Ce qui montre qu'il y avait des démonstrations, parce que si vous prenez une formule simplement comme la formule donnant l'aire d'un triangle, base par hauteur divisée par 2, ça fait du triangle en superficie la moitié d'un rectangle. Mais il y a toutes les formes de triangle. Donc, il fallait être certain que la formule était quand même bonne. Alors, les Égyptiens, par exemple, ils s'arrêtaient là. Ça marchait, donc c'était bon. Et terminant, on n'en parlait plus.
Qui est allé plus loin ?
Les Grecs. Babylone, avant, est allé plus loin en essayant, par exemple, de résoudre ce qu'on appelle les équations. En posant des problèmes qui sont assez compliqués.
Alors, Michel Rousselet, vous avez souligné tout à l'heure l'intérêt de la transversalité. Et de l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui était une évidence pendant très longtemps. C'est-à-dire que ceux qui ont élaboré des théories ou des théorèmes dans l'Antiquité étaient également des gens qui s'intéressaient à l'astronomie, à la littérature, à la philosophie.
Ils s'intéressaient à l'astronomie, parce que qui dit astronomie dans l'Antiquité dit calcul. Or, les calculs, il faut savoir les mener. Par la suite, avec la Grèce, on hésite justement. Les Grecs, eux, parlaient de géométrie, puisqu'ils avaient une approche essentiellement géométrique hein, des maths. Donc, ils se définissaient comme géomètres. Et aujourd'hui, quand on parle d'eux, on hésite à dire penseur, philosophe, géomètre, mathématicien. On ne sait pas très bien. Ils étaient tout à la fois.
C'était une vision globale du monde ?
Parce que ça faisait partie du savoir. Il y avait la recherche du savoir. Si je prends l'exemple de Platon, qui est l'un des premiers grands philosophes de l'histoire de la philosophie, il était mathématicien. À l'entrée de son lycée, il avait écrit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ».
Extrait du film « Astérix et Obélix, mission Cléopâtre » réalisé par Alain Chabat.
Qu'est-ce que tu comptes, patron ?
Mesure. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Ici. Sur tout ce terrain. De là à de là.
Oh, c'est déjà du bon palais, là.
Cléopâtre veut que ça soit moderne et audacieux.
Ah bah, ça tombe bien, patron. Excuse-moi, tu veux pas juste arrêter de compter? Parce qu'on paye exprès des maîtreurs pour ça et c'est un peu...
On n'a pas le temps, Otis. On a 3 mois pour terminer ce terrain.
D'accord. On peut prendre combien de retard à 3 semaines près?
Rien, Otis. On a 3 mois, pas un jour de plus.
La suite de l'histoire... Véronique Elzieux.
En matière d'architecture, si vous me permettez l'expression, ils en connaissaient un rayon. À la fois les Égyptiens, les Romains, Les Grecs, ils ont édifié des monuments qui aujourd'hui nous laissent encore songeurs.
Oui, on saurait les faire. Hein.
Oui, on saurait les faire, mais si on les reporte à l'époque où ils ont été construits, on se dit qu'ils avaient quand même déjà tout compris.
Disons que c'était du travail humain. La construction des pyramides, par exemple, c'était des milliers et des milliers d'esclaves qui étaient au travail, avec des moyens mécaniques relativement simples, c'est-à-dire l'équivalent de treuil, des rouleaux, voyez, des plans inclinés, par exemple, pour monter les pierres qui servaient à la construction des pyramides, en terre, tassées, on faisait les plans inclinés, qu'on détruisait ensuite.
Et ça nécessitait des maths?
C'est-à-dire que pour faire une plateforme inclinée qui va permettre de monter tant de blocs de pierre, quelle quantité d'argile faut-il? Ça se calcule.
Est-ce que dans d'autres régions du monde, on a su ensuite que, nous, Européens, évidemment, que les mathématiques étaient maîtrisées et que c'était une discipline importante? Je pense à la Chine, par exemple.
Il y avait des échanges. On connaît mal ces échanges, mais entre la Chine et l'Inde, il y avait des relations. Entre l'Inde et la Mésopotamie, la Perse, ensuite, il y avait des relations. L'Égypte, on sait que les Grecs, par exemple, il y a eu des voyages. Hérodote a fait des voyages en Grèce. On sait que les Grecs ont appris des Égyptiens ou des Babyloniens un certain nombre de choses, de techniques.
Donc il y a eu des échanges et il y a eu un apprentissage mutuel.
Bien sûr. Et encore, alors après, pour la période suivante, pour ce que j'ai appelé le Moyen-Âge dans le bouquin, période avec les mathématiques arabes.
Michel Rousselet, dans le livre que vous consacrez à l'histoire des mathématiques, vous me disiez qu'une partie très importante est consacrée à la période antique. Est-ce qu'on peut dire qu'on a là les bases?
Les bases, non. Mais on a un certain nombre de problèmes qui se posent. Certains vont être résolus, d'autres ne vont pas l'être et vont être légués aux successeurs. Prenons le théorème de Pythagore. Dans son énoncé, il est relativement simple. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés d'un triangle rectangle. Bien. Mais ça a nourri la réflexion de tas de mathématiciens. Ça a donné lieu à une généralisation. C'est-à-dire que ce que l'on faisait avec le carré des nombres, on s'est demandé, avec Fermat, au XVIIe siècle, si on ne pouvait pas l'envisager pour des puissances 3, ou des puissances 4, 5, 6, etc.
Revenons au Moyen-Âge, qui est la période à laquelle on va s'intéresser maintenant. Par rapport à l'Antiquité, qu'est-ce que cette période apporte?
Deux progrès très remarquables. Le premier, c'est au niveau de l'algèbre, nom d'origine arabe. Alors, ce qui est absolument fantastique, c'est que Al-Khwarizmi, qui travaillait à la maison de la sagesse fondée par Al-Mamoun, à Bagdad, il a mis au point des techniques pour traiter ce qu'on appelle aujourd'hui les équations. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il n'avait absolument pas le formalisme. Chez lui, il n'y avait ni X, ni Y, ni Z, ni Theta. Tout était fait avec des mots. Ce qu'on appelle l'inconnu X, ça a pris un nom à la Renaissance. En Italie, on l'appelait la cosa, la chose, hein, la chose qu'on cherchait, la chose inconnue. Mais vous essayerez d'écrire une simple égalité sans aucune lettre, avec des mots de tous les jours.
Pourtant, il est arrivé. Alors, qui était ce Al-Khwarizmi que vous évoquez là?
Eh bien, c'était un lettré, un savant, donc qui a été encouragé à travailler dans cette fameuse maison de la sagesse à Bagdad. C'était une période d'ouverture où l'islam encourageait la connaissance, les sciences, la littérature, la philosophie. Donc dans cette fameuse maison de la sagesse, travaillaient côte à côte des géographes, des astronomes, des philosophes. Par exemple, un philosophe intéressant, postérieur à Al-Khwarizmi, c'est Al-Kindi, qui a créé le début d'une science nouvelle qu'on appelle la combinatoire, c'est-à-dire chercher de combien de manières on peut faire des arrangements, des combinaisons, d'accord? Il l'a fait au départ parce que, à cette époque-là, circulaient déjà des tas de paroles qu'on attribuait au prophète Mohammed. La question qui se posait, c'était quel degré de confiance peut-on avoir? Alors il a eu une idée, faire ce qu'on appelle une analyse de fréquence. Combien de mots étaient utilisés, lesquels, etc. C'est les méthodes qu'on utilise encore aujourd'hui, hein. Quand on veut attribuer, par exemple, tel ou tel écrit à tel ou tel écrivain, on fait un corpus de son vocabulaire, et puis on regarde s'il y a coïncidence, correspondance.
0 1 2 3
La suite de l'histoire.
4
Les chiffres tels qu'on les utilise aujourd'hui 5, nous viennent des Arabes.
Mais ils sont indiens, parce que dans le développement des sciences arabes, il y a eu deux phases. La première phase, c'est celle de la rencontre avec d'autres cultures. Les Indiens, Indiens au sens de l'Inde, hein, qui étaient, et qui sont toujours d'ailleurs, extrêmement avancés sur le plan du calcul. Or, les Indiens, qui ont inventé le zéro, qui ont inventé les nombres négatifs, c'est pas rien, leur ont donc transmis ces connaissances. Par l'intermédiaire des bibliothèques qui existaient encore, notamment à Alexandrie, ils ont enregistré, je dis pas tout le savoir grec, mais presque. Donc il y a eu des armées de traducteurs mandatés pour traduire en arabe tous ces livres. C'est la première période. Ensuite, les Arabes ont volé de leurs propres ailes. Ils ont donc transformé les chiffres indiens. Alors de deux façons, c'est assez curieux. À l'ouest, c'est-à-dire à l'ouest, c'est assez tardif, c'est 11e, 12e siècle, il y a eu une manière d'écrire les chiffres arabes, mais plus à l'est, il y en a eu une autre. Et quand nous, on a appris les chiffres dits arabes, il y a eu la voie passant par l'Espagne et il y a eu la voie passant par la Sicile et l'Italie du Sud, le royaume de Naples. Alors, vous retrouvez ces deux voies dans les mots « zéro » et « chiffre ». Le mot « chiffre », il vient de l'arabe « al-sifr », qui veut dire le rien, le zéro. Il est passé par l'Espagne. Et le mot « zéro », il est passé par l'Italie du Sud. Il a la même origine, c'est-à-dire il vient aussi du même mot « sifr », mais il a connu une destinée différente.
Et alors, comment ça cohabite avec les chiffres romains ?
Oh, ben les chiffres romains, c'est un système extrêmement mal commode. D'ailleurs, les Romains n'ont jamais été les mathématiciens. Ça a été des grands constructeurs. Les Romains se sont contentés, c'est déjà pas rien, d'utiliser le savoir de l'Égypte, puisque l'Égypte a fait partie de l'Empire romain, et puis les Grecs. Hein. Mais donc, le système romain, alors il a duré, par exemple, dans un pays comme la France, où au XVIIe siècle, on tenait encore les comptes royaux en chiffres romains.
Les chiffres arabes, ils se sont imposés à partir de
quand ? Alors, ils sont imposés, il a fallu 3 siècles pour qu'ils s'imposent. Les chiffres arabes ont été introduits par un évêque, qui s'appelait Gerbert d'Aurillac, et qui est devenu pape sous le nom de Sylvestre II. Il était d'abord, on pourrait dire, attaché l'ambassade en quelque sorte, en Espagne, à la frontière du royaume andalou. Il y avait donc des contacts, et il avait vu l'intérêt de ces chiffres, qu'il a ramené en France, à Reims, où il enseignait les mathématiques.
C'est comme ça qu'il les a petit à petit
diffusés.
Oui,
mais alors il a fallu plusieurs siècles pour qu'ils s'imposent, parce qu'on travaillait beaucoup pour faire les comptes, qui n'était pas une mince affaire, avec des abacs, des tables à calculer, si vous voulez, à la façon des Romains. Et donc, vous aviez une honorable corporation de spécialistes des comptes qui voyaient d'un très mauvais œil des concurrents s'installer avec du papier et un crayon. Ils disaient, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on fait des traditions d'antan ? La France n'est plus la France.
Avec donc l'apparition du papier.
Alors, l'apparition du papier, il a été inventé par les Chinois. Il s'est répandu en Asie et au contact de la Chine, les conquérants arabes qui ont islamisé une partie du continent asiatique, ils l'ont ramené dans l'Empire arabe et petit à petit, c'est passé en Europe par l'Italie. Et puis, si vous voulez, avec l'invention de l'imprimerie, on a pu diffuser des livres en Europe.
Michel Rousselet, au Moyen-Âge, mais déjà bien avant, la géométrie est très importante aussi, ne serait-ce que pour la décoration, les mosaïques, tout ce qu'on peut voir dans les palais andalous notamment, c'est magnifique et ça demande une véritable maîtrise.
Oui, surtout ça demande l'étude de ce qu'on appelle les polygones réguliers. Et donc, pour fabriquer au Maroc notamment ce qu'on appelle des éliges, des petits bouts de céramique si vous voulez, qui ont la forme de triangles équilatéraux, qui ont la forme de carrés, qui ont la forme de pentagones, etc. Et qui, juxtaposés, vont permettre de réaliser des murs magnifiques, hein, comme on en voit par exemple à Séville ou à Grenade. encore.
Vous nous disiez que construire une pyramide ou un palais dans la Rome antique, ce n'était pas si compliqué que ça. Est-ce qu'avec l'apparition des cathédrales, les choses se complexifient un peu? Est-ce que ça demande d'autres compétences et d'autres maîtrises?
Ah oui.
Pourquoi?
En particulier avec l'apparition du gothique. On essaye de faire entrer la lumière dans les églises, par opposition aux églises romanes, qui ont des voûtes en demi-cercle. Donc on est limité en hauteur. Alors que là, avec la voûte gothique, on peut monter. Il y a d'ailleurs presque une sorte de concours à quelle ville, à quel duché, à quel royaume fabriquera la cathédrale la plus haute, avec la plus belle lumière, d'où les vitraux, etc.
En quoi est-ce que ça demande des compétences en mathématiques?
D'une part, si vous voulez, dans ce qu'on appelle la mécanique des matériaux, vous n'empilez pas les uns sur les autres des tonnes et des tonnes de pierres sans vous assurer que ça va tenir. Il y a deux constructions au Moyen-Âge qui sont très compliquées. Il y a celle des cathédrales et il y a celle des ponts. La première solution, par exemple, apportée pour les ponts, c'est la solution romaine, où on fait un pont, alors avec des arches arrondies, puis un deuxième pont sur le premier, éventuellement un troisième, mais on est vite limité.
Le pont du Gard, par exemple.
Le pont du Gard, et ça diminue en hauteur. La première invention, elle est arabe. C'est l'arc cintré, qui permet, pour une même portée, c'est-à-dire en largeur, d'avoir une hauteur plus importante.
Tout ça, ça s'apprend et ça s'enseigne. Au Moyen-Âge, où est-ce qu'on enseigne les mathématiques?
Les mathématiques, elles s'enseignent à l'université. La première université, elle est créée en Italie, à Bologne.
1088.
Et ensuite, vous avez l'université à Oxford, vous en avez en Espagne, vous avez la Sorbonne. Et là, on enseigne deux groupes de disciplines. Ce qui nous intéresse sur le plan scientifique, c'est le quadrivium.
C'est-à-dire?
Mathématiques, astronomie, musique et le quatrième méchop.
Et vous conviendrez que les mathématiques sont à la base de tout.
Extrait du court-métrage Donald au pays des mathés magiques, réalisé par les studios Disney en 1959.
Ah, avant tout, il me faut une corde. Étirez bien fort, faites-la vibrer. Maintenant, coupez en deux. Faites-la vibrer de nouveau. Vous voyez, c'est le même son, mais un octave plus haut. Recoupez en deux ce morceau. Puis ce morceau, Pythagore a découvert que l'octave avait une proportion harmonique de 2 à 1. Par simple fractionnement, il est arrivé à ceci. Partant de cette harmonie en chiffres, il a développé la gamme musicale que nous connaissons.
Pythagore, c'est lui qui a créé les premiers éléments de réflexion pour créer les gammes. Il a étudié simplement ce qu'on appelle les cordes vibrantes. Puisqu'en Grèce, les principaux instruments de musique, c'était la cithare, l'équivalent de la harpe, donc des instruments à cordes.
Et ça nécessite une maîtrise.
Pythagore, elle est simple. Vous tendez une corde, vous la faites vibrer, vous avez une note. Qu'est-ce qui se passe quand vous raccourcissez la corde de moitié, ou du tiers, ou du quart? À l'oreille, vous sentez si la note ainsi créée est en harmonie avec la note fondamentale donnée par la corde. Si oui, vous créez petit à petit une gamme, avec des intervalles.
Michel Rousselet, quand on feuillette votre livre, on tombe sur des pages assez étonnantes. Je me dis que si vous avez enseigné ça à vos élèves lorsque vous étiez professeur de mathématiques en collège, effectivement, ça devait les intéresser. Quelle est la trajectoire d'un boulet de canon ? Est-ce qu'on est là en plein dans un problème mathématique?
Ah oui. Et c'est un sacré problème. Je vais vous raconter une histoire que j'aimais bien raconter, justement. Ça commence en Grèce. Et cette histoire, elle permet d'apporter un début de réponse à cette fameuse question. Les mathématiques, ça sert à quoi? Alors, en Grèce, nous sommes à peu près au 3e siècle, 2e siècle avant Jésus-Christ. Il y a un oracle à Délos, dans le temple d'Apollon, qui a dit que le dieu serait vraiment très content si on pouvait doubler le volume d'un autel qui est cubique. Question, comment fait-on pour doubler le volume d'un autel cubique? Platon évoque un peu la question, mais avec un carré. L'idée, c'est non, multiplié par 2. Non, parce que le volume serait multiplié par 8. Donc ça colle pas. Alors on commence à faire des recherches. on essaye de résoudre ce qu'on appelle aujourd'hui des équations, mais on essaye de les résoudre avec les moyens du bord, c'est-à-dire déjà par intersection de courbes. Mais quelles courbes ? Il faut les inventer. Alors on invente des courbes pour tenter de résoudre ce problème. Il y a, c'est les coniques, le cercle, mais il y a aussi la parabole, l'hyperbole et l'ellipse. Alors l'ellipse sera connue parce que c'est l'ovale des jardiniers. Vous plantez deux bâtons, vous tendez une ficelle, et puis avec un troisième bâton, autour, vous tracez votre ellipse. Il y a la parabole. Ça a servi, mais ils n'ont pas réussi, hein, parce qu'ils n'avaient pas les connaissances nécessaires. Alors, le problème dure, et on arrive au Moyen-Âge, où, malheureusement, je dis bien malheureusement, on invente l'artillerie. Au début, c'est des canons qui ne sont pas très performants. On essaye d'éviter de bombarder ses propres troupes, parce que les obus qu'on envoie, ils tombent à 100 mètres, 200 mètres. C'est pas beaucoup. Mais peu à peu, la portée des canons s'allonge. D'où problème théorique pour les militaires. Comment calculer l'inclinaison avec laquelle on va tirer pour atteindre la cible ? Alors on invente des tas de solutions. On pense qu'au début, le boulet reçoit un coup violent. Pouf ! Il monte en ligne droite. Puis il se fatigue, il n'a plus d'énergie.
Et il tombe tout droit.
Tout droit. Mais quand la portée augmente, on s'aperçoit que ça ne marche pas, quoi. Deuxième tentative, le boulet monte en ligne droite, oblique. Il décrit un arc de cercle. Et là, il retombe non pas droit, mais il garde un peu d'élan. Et il tombe encore en oblique. C'est mieux, mais ce n'est pas encore ça. Et là, il faut attendre Galilée. Galilée, lui, qui veut critiquer Aristote, il démontre que... Il était prof de maths à l'université d'abord de Pise, puis ensuite de Florence. Donc il connaissait la parabole des anciens Grecs. Et il arrive à la conclusion que quand on lance un projectile, si on ne tient pas compte de la résistance de l'air, il décrit une parabole. Donc cette courbe qui ne servait rigoureusement à pas grand-chose, qui a doublé le volume d'un hôtel, finalement, elle va avoir une utilité malheureuse, puisqu'elle va servir. Alors, on l'a illustré, par exemple, par des photos qui montrent des radiotélescopes, qui sont des antennes paraboliques.
Ça peut paraître anachronique, mais c'est le même principe, en fait.
Sans parabole, il n'y avait pas d'antenne parabolique. Sans parabole, vous n'avez pas de phare sur les voitures. Parce que l'ampoule qui se trouve dans les phares d'une voiture, elle émet un faisceau de lumière qui va se réfléchir sur une forme parabolique qui va renvoyer le faisceau en rayon parallèle.
Tout est plus
Merci
clair.
Merci Ménélaus, l'inventeur de la parabole.
Alors venons-en maintenant, Michel Rousselet, à la navigation.
Ah.
Le début de l'ère moderne passe par la traversée de l'Atlantique, oui, par Christophe Colomb, qui va ouvrir des voies, dans tous les sens du terme, nouvelles.
Le problème, c'est de faire le point en mer pour se déplacer. Les Grecs, par exemple, ils faisaient de la navigation côtière. Ils se repéraient la nuit aux étoiles, mais dans la journée, ils n'avaient rien. Ils ne savaient pas faire le point. Donc, ils ne voulaient pas quitter la terre des yeux. Heureusement, en Méditerranée, il y a beaucoup d'îles. Donc, ils naviguaient d'île en île.
Par contre, sur l'océan, c'est une autre paire de manches.
Sur l'océan, c'est différent. Alors, très tôt, on a su trouver la longitude en mesurant la hauteur du soleil avec des appareils plus ou moins perfectionnés qui ressemblent à des rapporteurs, on mesure des angles. Mais la latitude, c'était tout à fait autre chose parce que la latitude, c'est une question d'heure. Il faut comparer l'heure locale, là où on est, avec l'heure du lieu de départ. Autrement dit, il faut emmener à bord d'un bateau une horloge. Seulement les horloges au Moyen-Âge, d'abord elles étaient trop grosses, trop lourdes, ensuite trop fragiles, elles ne tenaient pas la mer.
Alors ?
Il a fallu attendre un concours lancé par l'amirauté britannique au XVIIIe siècle pour qu'on invente le chronomètre de marine qui lui permettait de conserver l'heure du lieu de départ et de, au fur et à mesure qu'on avançait, d'avoir l'heure locale. Et en comparant ces deux heures, on pouvait faire le point et savoir où on était. On avait la latitude. Si vous ajoutez la longitude, vous savez où vous êtes. Après, il y a eu d'autres problèmes qui, là, étaient beaucoup plus mathématiques que techniques. C'est, pour aller d'un point à un autre, comment trouver le chemin le plus court. Ce que, à la suite d'Einstein, qu'on a appelé des géodésiques. On est à la surface d'une sphère, d'une boule. Vous allez d'un point A par mer à un point B. La première idée, c'est d'aller en ligne droite. Seulement, il n'y a pas de ligne droite. Alors, il y a les grands cercles qui jouent le rôle de ligne droite. Après, il y a des calculs qui nécessitent, si vous voulez, la trigonométrie sphérique qui a été mise au point fin de l'époque grecque.
A plus B par A moins B
égale à 2 moins B2.
A plus B par A moins B
égale à 2 moins B2.
Mais A plus B par A plus B
égale à 2 plus 2AB plus B2.
La suite de l'histoire.
Vous soulignez dans votre livre un autre point. On entre dans des choses un peu plus techniques, là. C'est la manière dont l'Europe, et les raisons pour lesquelles l'Europe adopte les nombres décimaux.
Oui. Alors, les nombres décimaux,
ça m'aide.
50,37, c'est un nombre décimal. On a une partie entière et une partie décimale. C'est-à-dire, on a une fraction de l'unité. Alors, les nombres décimaux, on ne le sait pas assez, c'est une invention arabe, redécouverte ou exploitée par Simon Stévin en Flandre.
À quelle période ?
16e siècle. Alors, en Flandre, comme vous le savez, la première industrie, c'est l'industrie textile. Bon, qui connaît des problèmes de rentabilité, de stock, etc. Alors, Simon Stévin, qui est le meilleur mathématicien flamand, il est chargé d'une mission par ce qu'on peut appeler le groupement des industries textiles. La tenue des comptes est épouvantable parce que les unités de longueur ne sont pas les mêmes, par exemple, pour le bois et pour le tissu. Bon, c'est absolument épouvantable. Et puis les calculs de prix. Quand on fait faire ça à des élèves, ils comprennent l'intérêt du système décimal parce que les calculs sont quand même beaucoup plus faciles et surtout beaucoup plus rapides. Donc Simon Stévin, il écrit un petit livre qui s'appelle « La dîme ». Dîme au sens de décimal, un dixième partie. Et il montre l'avantage et les économies de temps et d'argent que vont permettre de réaliser l'usage de ces nombres nouveaux.
La période des Lumières, est-ce qu'on envisage les mathématiques d'une manière nouvelle ?
Les mathématiques, on ne les envisage pas d'une manière nouvelle. Elles sont nouvelles. Le premier miracle, c'est Ernest Renan qui l'appelle ainsi, c'est le miracle grec. Mais il y a un deuxième miracle, c'est le miracle européen du XVIIe siècle, qui commence par l'invention de ce qu'on appelle la géométrie analytique avec Descartes. La géométrie analytique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée d'utiliser les techniques algébriques en géométrie. On trace ce qu'on appelle dans le plan un repère, c'est-à-dire deux droites perpendiculaires. On définit une unité de longueur, souvent la même, sur les deux axes. Et chaque point du plan est repéré par deux nombres, qui sont ses coordonnées. Alors les coordonnées, elles sont anciennes, on les connaît depuis les Grecs. En géographie, ils avaient introduit la latitude et la longitude.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là alors ?
Ce qu'il y a de nouveau, c'est que Descartes montre qu'on peut associer à une courbe ce qu'on appelle une équation. Par exemple, si vous tracez un cercle dont le centre est situé à l'origine du repère, son équation c'est x carré plus y carré égale carré du rayon.
Je vous crois.
Vous me croyez ? C'est pas trop difficile ça. Alors, c'est ça une équation. C'est une relation entre les deux coordonnées de chaque point d'une courbe. On va donc transformer les problèmes de géométrie en problèmes de calcul algébrique. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et ça va alimenter, si vous voulez, les recherches, là, cette fois, de dizaines de mathématiciens. Donc, les mathématiques deviennent nouvelles.
Mathématiciens et mathématiciennes ?
Alors, il y en a très, très peu. La première mathématicienne importante, elle est au 18e, c'est Sophie Germain. La notice que j'ai consacrée à Sophie Germain est illustrée par un autoportrait d'une peintre, Madame Vigée Lebrun. Au départ, j'avais pensé à une autre femme du 17e, qui était Louise Moyon, dont j'aime beaucoup les peintures. Mais il y a une différence, c'est que bien qu'il y ait très très peu de femmes peintres de haut niveau, il y en a quand même beaucoup plus que mathématiciennes. Alors, quelle est l'explication ? J'ai cherché une réponse. C'est que dans la bonne société, je parle des bourgeois éclairés au 18e, hein, ou de l'aristocratie, les filles sont éduquées et une bonne éducation passe par l'enseignement de l'aquarelle, de la musique, du maintien, etc., etc. Autrement dit, les jeunes filles de bonne famille apprennent assez facilement à faire de l'aquarelle. Il faut qu'elles se battent, et certaines se sont battues, pour être acceptées à l'Académie royale de peinture. Pour les mathématiciennes, c'est plus difficile, parce que ça ne fait pas partie de l'éducation d'une jeune fille du monde. Il faut soit avoir la chance d'avoir un père qui est assez ouvert, ou alors, il faut avoir un père éclairé. C'est le cas de Sophie Germain, dont le père est un commerçant aisé, qui a une très belle bibliothèque. Et donc Sophie Germain, elle apprend seule. Mais dans quel livre ? Dans les bouquins des plus grands mathématiciens de l'époque. Et elle va devenir mathématicienne.
Michel Rousselet, vous étiez en train de nous raconter l'histoire de Sophie Germain. Je crois que cette jeune femme vous intéresse particulièrement parce que c'est une des mathématiciennes connues à une époque où cette discipline était quand même très peu accessible aux femmes.
Elle n'est pas trop connue. Il y a un lycée Sophie Germain à Paris. J'ai ma petite fille qui y est allée. Elle ne savait pas au début qui était Sophie Germain. Je reprends un peu son histoire parce qu'elle est exemplaire. Elle s'est faite toute seule comme mathématicienne. On est au début du 19e. Elle a voulu suivre les cours de l'école polytechnique qui venait d'être créée. C'est là où on rencontrait les meilleurs matheux. Mais elle ne pouvait pas s'inscrire en tant que femme. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris un pseudo. Elle s'est appelée Monsieur Leblanc. Et à l'époque, les étudiants pouvaient correspondre, s'ils n'étaient pas là en présentiel, comme on dit aujourd'hui, ils pouvaient correspondre avec les professeurs. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a écrit des lettres et elle a été remarquée. On a remarqué que c'était quelqu'un vraiment de très, très brillant. Ce qui fait que son anonymat est tombé et elle a continué sa carrière en faisant des communications, mais avec beaucoup de difficultés parce qu'elle ne pouvait pas accéder à l'Académie des sciences. Elle a correspondu avec le plus grand mathématicien de l'époque, qui est un Allemand, Carl Friedrich Gauss. Et lorsque Napoléon a envahi les principautés allemandes, y compris celui où demeurait Gauss, comme elle avait par sa famille des relations avec l'armée, elle a pris sous son aile protectrice Gauss et elle a veillé à ce qu'il ne lui arrive rien. En Allemagne, le général en chef qui commandait les troupes françaises a rencontré Gauss et lui a dit que c'était donc grâce à Monsieur Leblanc, qui n'était autre que Sophie Germain, qu'il devait cette protection et ce traitement de faveur. Et là, Gauss a été sidéré, il a demandé à la rencontrer et il lui a fait par lettre une série de compliments en disant que, en tant que mathématicien, elle était déjà géniale, mais qu'en tant que femme, elle était 10 fois plus géniale, parce que compte tenu des obstacles qu'elle avait dû vaincre, c'est qu'elle avait vraiment une intelligence en mathématiques vraiment hors du commun. De la part du prince des mathématiciens, c'est quand même quelque chose. Dernière anecdote sur Sophie Germain. Quand elle est décédée, on l'a enterrée au Père Lachaise. Et pour remplir les papiers administratifs, on l'a présentée comme mathématicienne. L'employé d'administration qui était là a dit « Quoi ? Ça n'existe pas, ça. Je mets rentière.
» Voilà. Sophie Germain est sortie de l'oubli grâce à vous, Michel Rousselet. Alors, le 19e siècle est un siècle charnière dans l'histoire.
C'est un siècle révolutionnaire.
C'est vrai aussi pour les maths ?
Ah oui. Vous avez une grande révolution qui avait été entrevue par Gauss, mais Gauss avait un tel souci de la perfection qu'il ne publiait pas quand il n'était pas trop sûr que ce ne serait pas prématuré. Mais ça a été poursuivi par son élève Riemann, qui travaillait à l'université de Göttingen, et qui, à la suite d'un Russe et d'un Hongrois, a créé ce qu'on appelle la géométrie non euclidienne. Depuis les Grecs, en passant par les Arabes, en passant par les mathématiciens européens du XVIe et XVIIe, on avait tenté de démontrer le fameux axiome des parallèles. C'est-à-dire, dans le plan, par un point extérieur à une droite, on ne peut faire passer qu'une seule droite qui soit parallèle à la première. Ça paraît évident. Donc, si c'est évident, on doit pouvoir trouver une démonstration élémentaire. En 2000 ans, on ne l'a jamais trouvé.
Parce que c'est faux ?
C'est ni faux ni vrai. Ça dépend des axiomes que vous prenez. Vous pouvez prendre ça comme axiome, et vous avez ce qu'on appelle la géométrie euclidienne. Vous pouvez réfuter, dire « moi je ne suis pas le contraire ». et vous avez une géométrie non euclidienne.
Et ça, c'est révolutionnaire.
Ben oui, parce qu'on croyait que la géométrie, si vous voulez, il n'y en avait qu'une. Or, voilà déjà qu'on est à la tête de trois. Et comme dit Poincaré, grand mathématicien de la fin du 19e français et du début du 20e.
Le bien nommé.
Il dit une géométrie n'est ni plus vraie ni plus fausse qu'une autre, elle est simplement plus ou moins commode. Seulement, les géométries non euclidiennes, vous avez un grand bonhomme qui va montrer dans quel cas on peut s'en servir, et ce bonhomme, c'est Albert Einstein, qui va montrer que à des grandes vitesses, et pour concevoir la relativité générale, il va dire d'ailleurs qu'il a abominablement souffert, et qu'enfin il vient de comprendre un peu les mathématiques et le rôle.
Si
il va donc
Einstein
utiliser des géométries non euclidiennes.
M'oblige pas à y aller. Tu peux continuer à me donner des cours.
Je t'ai enseigné tout ce que je sais. Le sujet est clos, d'accord? On en a discuté ad nauseam.
C'est quoi ad nauseam?
Oh, tu sais pas? J'en connais une qui doit aller à l'école.
Extrait du film Marie, du réalisateur Mark Webb, sorti en 2017.
Bonjour, mademoiselle Stevenson.
Qui peut me dire combien font 3 plus 3?
Mais tout le monde sait que ça fait 6.
Marie, tu veux bien te lever? Saurais-tu me dire combien font, disons, 135 multiplié par 57? Très bien.
7695. La racine carrée est 87,7. Et des poussières. Sinon, ça veut dire quoi, ad nauseam?
La suite de l'histoire.
Donc, le 19e siècle est marqué notamment par cette... découverte. Alors, je ne sais pas si c'est une découverte d'ailleurs, ou c'est une autre manière de penser.
Là, vous posez une question très très ouverte. Alors, moi j'ai mon opinion là-dessus, mais j'ose pas trop la donner parce que je suis en contradiction avec des mathématiciens bien plus importants que moi, qui eux pensent que c'est une découverte parce que les objets mathématiques ont en quelque sorte une sorte d'existence dans le monde réel. Alors, moi, je ne le pense pas. Je pense que tout est invention. Ce sont des concepts, des idées qui sont inventées. C'est mon idée.
C'est presque philosophique, en fait.
C'est de la philosophie, oui, bien sûr. Mais si vous voulez, je suis en position un peu humble parce que quand je vois un grand matheux comme Alain Cohn, médaille Field, je me dis, j'ai pas son idée, je la partage pas, mais après tout...
Vous avez le droit.
Oui, finalement. J'ai le droit, bien sûr, j'ai le droit, mais... Je me sens petit quand même, si vous voulez. Je maintiens quand même mon idée.
Ça a quelque chose à voir, les maths, avec la révolution industrielle?
Oui, parce que la révolution industrielle, c'est, si vous voulez, la mise en œuvre de nouvelles techniques de production.
De rentabilité?
De rentabilité, d'une nouvelle attitude par rapport au savoir. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que les mathématiques, c'est utile et qu'il vaut mieux former des mathématiciens. Donc, les mathématiques, avec la naissance de la révolution industrielle, ont changé un peu de caractère. Auparavant, elles étaient universalistes, on peut dire. En Europe, au XVIIe ou XVIIIe, on échangeait des lettres de la Pologne à la France, en passant par l'Italie. Tout le monde écrivait en latin, quelquefois en grec, mais en latin. Et à partir de 1850, c'est la période des nationalismes montants. Les mathématiques prennent un caractère national, qui va se traduire jusqu'à la caricature par une opposition entre les deux plus grands mathématiciens de la fin 19e et du début 20e, qui sont David Hilbert et Henri Poincaré, un Français et un Allemand. Ben oui, on a essayé d'opposer vraiment ces deux mathématiciens. David Hilbert, il était très bien, tiens, je vous raconte une petite histoire. Une femme, Émile Notaire, dont Albert Einstein a dit que c'était un génie en mathématiques. Alors comment est-ce qu'elle a appris les mathématiques? Grâce à son père qui était professeur de mathématiques à Göttingen. Et David Hilbert et Félix Klein, deux des plus grands matheux, devant le talent de cette femme, disent « Il faut absolument que tu poses ta candidature pour être professeur à Göttingen. » Elle pose sa candidature, elle est refusée. Et à ce moment-là, David Hilbert, en colère, déclare aux professeurs qui ont voté: il leur dit, messieurs, je ne savais pas que notre université ressemblait à un établissement de bains et douches où on sépare les hommes des femmes.
Michel Rousselet, racontez-nous l'histoire de la machine à calculer.
Ah, la machine à calculer. Cette histoire-là, elle est longue parce que c'est l'histoire des instruments de calcul. Alors, les instruments de calcul commencent avec les abaques romaines, les tables à calculer où on a des pions avec les bouliers. C'est la même chose, un boulier, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Un boulier chinois ou japonais, ça fonctionne comme une table à calculer romaine. Donc on déplace des pions pour faire les calculs. Il y a des experts. Et puis, le grand tournant, c'est le 17e avec Pascal, Blaise Pascal, qui, pour aider son père, Étienne, lequel était contrôleur général des impôts, et son fils qui avait appris les maths, la légende dit qu'il a appris à 3 ans tout seul, ce qui m'étonne pas, moi, personnellement. Et donc, il a voulu aider son père en construisant la première machine à calculer mécanique de l'histoire, la Pascaline, qu'on peut voir au Musée des Arts et Métiers à Paris. Il y a encore quelques exemplaires.
Et puis après, l'étape suivante.
Après, on a eu Charles Babbage, au 19e, qui, si vous voulez, en s'inspirant des cartes perforées des métiers à tisser jacquard, a conçu, sans jamais pouvoir le réaliser de son vivant, une première machine à calculer qu'on peut appeler un ordinateur, puisqu'il y avait un système de calcul, mais il y avait aussi une mémoire. Et puis après, on trouve les ordinateurs qui repose sur l'électronique.
Est-ce qu'on peut dire quelque chose des probabilités ?
Ah, les probabilités commencent par quelque chose de très futile, c'est les jeux de dés. Les jeux de dés étaient très populaires à Rome, ils sont passés de là au Moyen-Âge à tous les pays européens, on jouait aux dés partout. Au XVIIe siècle, à la cour du roi, on jouait aux dés, oui, on jouait de l'argent. Et le premier qui s'est posé la question, c'est un Italien qui s'appelait... On a francisé son nom, Jérôme Cardan. Il était joueur. Il se demandait simplement quel était le nombre de ses chances de sortir un 6 en lançant 3 dés. Alors il a eu une idée très très simple, dont on peut servir pour enseigner des probas à des jeunes élèves, c'est que la chose devient facile à voir si on a 3 dés de couleur. Parce qu'on s'aperçoit qu'avoir 6 bleus, 1 rouge et 3 jaunes, c'est pas la même chose qu'avoir 6 rouges, 3 bleus et 1 jaune. Autrement dit, si vous avez 3 dés, vous avez 216 combinaisons. 6 par 6 par 6.
Ça marche pour le loto, ça ?
Les probabilités, bien sûr. Mais je vous décourage de jouer au loto parce que le nombre de chances de gagner, c'est... Par contre, il y a des gagnants.
Il y en a quand même.
Il y en a toujours un.
Michel Rousselet, la bosse des maths, qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas, ça vous inspire quoi ?
Je n'y crois pas.
On est tous matheux, d'une manière ou d'une autre ?
Oui et non. Au niveau des capacités, je suis intimement persuadé qu'il n'y a aucune raison que la plupart des gens ne puissent pas faire des mathématiques.
Qu'est-ce qui coince alors ? Parce que beaucoup bloquent.
C'est l'intérêt. Et heureusement... Tous les gens sont différents. Donc, ce qui plaît à l'un ne plaît pas à l'autre.
Vous nous avez dit que les mathématiques se simplifient.
Les mathématiques, si vous voulez, progressent de plusieurs manières. D'une part, elles sont les héritières des difficultés et des problèmes posés par les générations précédentes. Donc, elles vont inventer des nouvelles méthodes pour les résoudre. Parfois, elles y arrivent, parfois, elles n'y arrivent pas. Donc elle continue.
Et elle se complexifie.
Alors, elle se complexifie parce que, en mettant au point une nouvelle méthode, on met au point de nouveaux points de vue. On jette des ponts. Par exemple, je vous ai parlé de Descartes et de la géométrie analytique. On a donc créé l'idée d'équation d'une courbe. Ça a permis de poser de nouvelles questions. Est-ce qu'il y a une parenté entre les courbes dont l'équation est du second degré ? La réponse est oui, ce sont des coniques. C'est un point de vue tout à fait nouveau. Et qu'en est-il des courbes dont les équations sont du troisième degré ? Ça ouvre des recherches nouvelles.
Mais ça ouvre des recherches nouvelles, pourquoi faire ? On a le sentiment que aujourd'hui, les mathématiques sont devenues très abstraites.
Elles sont très abstraites, oui, mais en même temps, elles deviennent plus concrètes.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire... Elles sont abstraites pour quelqu'un qui est profane. Mais je vais prendre un exemple pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Prenons la musique. Il y a tout un vocabulaire technique. Qu'est-ce que c'est qu'un accord de quinte ? Si vous n'êtes pas musicien ou musicienne, ça vous paraît extrêmement abstrait, un accord de quinte. C'est pas de la musique, ça. C'est une notion qui aide à penser la musique, mais c'est pas de la musique. Bon, vous avez donc des vocabulaires qui sont extrêmement abstraits et il faut travailler pendant pas mal de temps pour les maîtriser. Ça, c'est pour le caractère abstrait. Mais une fois que vous avez maîtrisé ça, vous êtes en possession d'outils qui vous permettent d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient pour traiter les problèmes. Donc vous êtes beaucoup plus concret. Vous n'êtes plus dans les hautes sphères de la rêverie. Vous êtes dans le concret. Vous allez résoudre des problèmes. Les mathématiques, si vous voulez, il y a deux moteurs aujourd'hui. Il y a un moteur essentiellement interne, ce sont les problèmes qui se posent. Par exemple, peut-on généraliser le théorème de Pythagore ? Ça a alimenté la réflexion et les travaux de dizaines de mathématiciens pendant des siècles. Le problème vient d'être résolu dans les années 1990 par le Britannique Andrew Wiles, qui a mis 8 ans à résoudre le problème. Mais il n'était pas seul. Il a bénéficié de l'aide de dizaines et de dizaines de mathématiciens avant lui, qui avaient abordé ce problème.
Aujourd'hui, on se sert des mathématiques pour aller dans l'espace, pour améliorer les systèmes informatiques. Les mathématiques sont partout.
Les mathématiques se sont extrêmement diversifiées. Je vous avais parlé à un moment donné de David Hilbert et Henri Poincaré. De l'avis de tout le monde, ce sont les deux derniers mathématiciens dont on pense qu'ils maîtrisaient le champ entier des mathématiques. Aujourd'hui, c'est fini.
C'est-à-dire, aujourd'hui, on est spécialiste de quoi,
plus
par exemple ?
Personne ne peut tout maîtriser. Vous avez des spécialistes. Alors, vous avez des mathématiciens qui font des mathématiques pures. Vous avez maintenant des mathématiciens qu'on appelle appliqués. Par exemple, je viens de faire récemment le compte-rendu d'un livre qui s'appelle « Mathématiques et épidémiologie ». C'est un chercheur qui montre mathématiquement comment on fabrique des modèles. Bon, c'est des mathématiques appliquées à la médecine. Vous avez des mathématiques appliquées à différents domaines, voyez.
Et donc, aujourd'hui, on a des gens donc très spécialisés, mais est-ce qu'ils ont encore le sentiment, ces gens, d'être en prise avec une réalité et l'ensemble de la...
Moi, je crois que oui, bien sûr. Chacun est dans un domaine de réalité. Oui, bien sûr. Par contre, ce qu'ils peuvent regretter, c'est de ne plus pouvoir aborder facilement des domaines qui sont hors de leur champ de compétences. Par exemple, l'une des sources à l'heure actuelle importante du renouvellement mathématique, c'est l'informatique. Parce que ça pose des problèmes nouveaux. Bon, quand vous êtes spécialisé en mathématiques de l'informatique, vous n'êtes pas spécialisé, par exemple, en topologie algébrique. Donc si vous mettez deux mathématiciens, l'un qui fait de la topologie algébrique, l'autre qui fait des mathématiques de l'informatique, il y a peu de chances qu'ils se comprennent. Ils ne pourront même pas discuter.
Il se murmure que les chiffres font drôle de mœurs. À notre insu, souvent, ils se rebellent. L'irrationnel mènerait la cadence. Il serait la cause de bien des tourments. C'est bien ma veine. C'est bien ma veine à moi. Une vraie des veines en somme. Tomber sur un bug comme ça, drôle d'accordeur, qui ne fait que minorer mes accords majeurs. En entend de suite mineur, c'est bien la preuve qu'il existe. 9 chances sur 10, une fois sur 2, de se planter. Alors plutôt. À chaque fois je suis tombé des nues, il n'y avait que des retenues. C'est bien ma veine.
Vous dites que l'informatique pose des problèmes nouveaux. Est-ce qu'il résout des problèmes qui avaient été insolubles jusque-là?
Oui et non. Je vous ai souvent dit oui et non. Oui, grâce à des ordinateurs, on a pu achever la démonstration de certains théorèmes. Par exemple, le théorème des quatre couleurs, qui est un théorème simple à énoncer. Il dit que pour colorier une carte de géographie, la France par exemple, de façon à ce que deux départements limitrophes n'aient pas la même couleur, il suffit de quatre couleurs. Pendant longtemps, on a cru que c'était 5. Alors, la démonstration, elle a été terminée, elle a été commencée à la main, si je peux dire, et terminée sur ordinateur, tout simplement parce que il a l'ordinateur, un programme d'ordinateur, a recensé la totalité des cas qui restaient à examiner. C'est en ce sens-là que, pour le moment, l'informatique peut aider. Maintenant, croire qu'un programme informatique va tout seul se mettre à penser et se mettre à poser un problème, puis à le résoudre, en science-fiction, oui. Mais dans la vraie vie, non.
Un Rubik's Cube, il est sorti plutôt d'un ordinateur ou de la tête d'un monsieur ?
Non, il a été inventé par un professeur d'une école des beaux-arts. Donc, c'est chapeau. Sur le plan mécanique, c'est très, très fort. Mais, j'en ai parlé dans mon bouquin pour distraire un peu le lecteur. Et puis, parce qu'au XXe siècle, c'est pas facile de trouver des sujets abordables. Et puis, parce
grand public, vous voulez dire ?
Grand public.
Ouais.
Et ça illustre l'une des théories les plus importantes des mathématiques, qui est la théorie des groupes, inventée par, tout le monde connaît son nom, je pense, Galois, Évariste.
Les mathématiques, c'est parfois pour le meilleur et pour le pire ?
Oui, comme les marteaux.
Ça dépend ce qu'on en fait.
Ça dépend ce qu'on en fait.
Si c'est pour taper sur la tête de son voisin, c'est pas bien.
Exactement.
Avec les maths, on a fait quoi ?
Sans mathématiques, vous n'aviez pas de bombe atomique. Sans mathématiques, vous n'auriez pas de missiles intercontinentaux. Vous n'auriez pas, sans mathématiques, mathématiques du XVIIIe siècle. Hein. 17e, 18e. C'est pas très... C'est important en volume de calcul, mais vous n'auriez pas de missiles capables d'aller détruire un satellite, comme on l'a vu récemment dans l'actualité.
Un personnage comme Cédric Villani, qui est très médiatisé.
Très médiatisé, oui.
Vous pensez qu'il donne une autre image des mathématiques ?
Non, parce que comme il est médiatisé maintenant, il ne sait plus en raison de ce qu'il fait en mathématiques. C'est sa notoriété en mathématiques qui lui a permis de se lancer en politique. Donc là, c'est un autre domaine sur lequel je ne dirai rien.
Et puis, il y a l'infiniment grand et l'infiniment petit qui restent des domaines absolument fascinants encore pour nous aujourd'hui, bien sûr. Même si on a résolu pas mal de questions, il en reste quand même beaucoup qui nous sont encore totalement inaccessibles.
Bien sûr. Pour le moment, il y a des tas de problèmes qu'on ne sait pas résoudre. Il y a des problèmes qui ont été posés, par exemple, au XVIIe siècle, qui n'ont pas été résolus et qui ne le sont toujours pas. Par exemple, si vous prenez un nombre premier, le nombre premier, c'est les nombres 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc., qui ne sont divisibles que par 1 et eux-mêmes. Alors, une conjecture a été énoncé par Goldbach au XVIIe, tout nombre entier est la somme de nombres premiers. Par exemple, prenez, mettons, 10, vous cherchez parmi les nombres premiers les plus petits, alors vous aurez 2 plus 3 plus 5.
Est-ce que vous faites partie des gens, pour terminer, on est sur RCF, qui pensent qu'un jour on pourrait prouver l'existence de Dieu ?
Non, totalement impossible.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que dites-moi comment on pourrait s'y prendre et je vous dirai si j'y crois.
J'accepte votre réponse.
J'ai fait une paraphrase d'Einstein. Quand il est arrivé aux États-Unis, après avoir fui la main nazie, les journalistes qui l'attendaient lui ont dit « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et il a dit, écoutez, dites-moi qui c'est, je vous dirai si je crois que c'est lui.
Michel Rousselet, un très grand merci d'être venu nous raconter.
C'est moi
avec
qui vous
remercie. Autant de bonne humeur, d'humour et d'histoire. Cette belle histoire des maths, pour reprendre le titre de votre livre, qui a donc été publié par les éditions de Book. Un très grand merci à vous. Je recommande vraiment cet ouvrage à nos auditeurs. Il est plein de très belles illustrations et tout à fait compréhensible. Un très grand merci aussi à Pierre-Henri Paget, qui était à la technique et à qui je vais ouvrir le livre.